Témoignage de notre Seigneur. Il n'est pas question, nous le remarquons, de notre témoignage. Il n'est pas dit, n'aie donc pas honte de notre témoignage à l'égard du Seigneur. C'est bien, n'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur. C'est de lui qu'il s'agit, pas de nous. C'est de lui que nous n'avons pas à avoir honte. Comment peut-il dire ça, l'apôtre, à son enfant Timothée ? Et pourquoi ? Certainement à cause du contexte difficile dans lequel il se trouvait. C'est une des dernières épîtres. L'apôtre était considéré l'état de choses qui était en train d'arriver. Tous l'abandonnaient. Même Démas l'avait abandonné, aimant le présent siècle. Il semble qu'il n'y avait plus grand monde qui était fidèle aux enseignements qu'il avait donnés. Plusieurs l'avaient suivi. Il est question de tous ceux qui sont en Asie aussi, se sont détournés de moi. C'est dans ce premier chapitre aussi, au verset 15. C'était gravissime, la situation. Lui, l'apôtre, n'avait pas honte de cela. Ne le couvrait pas de honte, parce qu'il peut dire au verset 12: je souffre ces choses, mais je n'ai pas de honte, car je sais qui j'ai cru. Je sais qui j'ai cru. Il avait été arrêté sur le chemin de Damas. Il avait vu le Seigneur dans la gloire, qui s'était révélé à lui personnellement. Il avait été ravi au troisième ciel, où il avait entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Il avait reçu des révélations directes du Seigneur. Il avait beaucoup souffert. Le Seigneur avait averti Ananias lorsqu'il devait aller chercher l'apôtre qui avait été arrêté ainsi sur ce chemin de Damas. Ananias qui avait peur de lui, c'était au moment où l'apôtre allait pour arrêter les chrétiens et les traîner en prison. Il était terrible à ce moment-là. Mais le Seigneur lui dit, je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Et nous le voyons dire ici à la fin de son service, je souffre ces choses. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 11, il fait l'énumération de tout ce qu'il avait souffert. Je crois qu'aucun de nous aurait supporté cela. Il avait accompli son service avec fidélité, c'est pourquoi il n'avait pas de honte. Quand bien même il n'y avait pas de. Où les fruits semblaient si rares, peut-être. Il avait accompli fidèlement son service. C'est pourquoi il n'avait pas de honte. Il restait auprès de lui, son enfant dans la foi, Timothée, qui peut-être avait tendance à baisser les bras devant ce constat, mais il l'encourage. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur. Ces temps de déclin, dès le début de l'Église, nous rappellent bien sûr fortement le temps de déclin à la fin de l'Église, lequel nous vivons. Pourquoi nous avons à nous exhorter à ne pas avoir honte du témoignage de notre Seigneur ? Quel est-il ? Dieu s'est toujours réservé un témoignage dans tous les temps, dans toutes les dispensations, selon qu'il se révélait. Au Père d'Israël, il avait donné des promesses auxquelles il s'était attaché et qu'il les gardait. Il n'avait pas honte de ses promesses. Et cela a été visible dans leur vie. Et on en lit quelque chose dans Hébreux 11, par exemple, au sujet de la façon, de la foi avec laquelle ces patriarches s'attachaient aux promesses. Mais ce n'est pas notre sujet, nous n'allons pas y venir. C'est juste pour indiquer qu'il y avait un témoignage à garder, ce que Dieu avait donné à garder. Plus tard, il y a eu la loi que Dieu a donnée. Et le peuple devait s'attacher à garder la loi. La loi qui était la pensée de Dieu quant à la marche de l'homme sur la terre. Bien sûr qu'ils ont failli, la loi avait été donnée pour, Galates nous le dit, afin que, à cause des transgressions, c'est-à-dire Dieu voulait, avant de présenter l'œuvre de la croix, pour sauver l'homme, encore fallait-il démontrer que l'homme était perdu, irrémédiablement perdu. Jusqu'à ce que la loi soit donnée, l'homme, dans son état misérable de pécheur, pouvait pécher sans le savoir. On peut pécher sans savoir que c'est un péché, parce que nous ne connaissons pas les pensées de Dieu en profondeur, au moment où la loi, avant qu'elle soit donnée, Dieu ne s'était pas révélé complètement. L'homme pouvait pécher sans savoir qu'il contrevenait à la pensée de Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné la loi. Et à partir de ce moment-là, l'homme ne pouvait plus avoir le prétexte de ne pas connaître la loi. La loi a été donnée. Nul n'est censé ignorer la loi, comme on dit. Dès lors, le fait de pécher, alors que la loi disait donner l'enseignement et la pensée de Dieu, le fait de contrevenir n'est plus un simple péché, ça augmente la gravité du péché, sérieusement. Et l'homme est convaincu de péché. À partir de là, quand il est évident que l'homme est entièrement perdu, Dieu va amener le salut pour nous racheter, qui sera à saisir par la foi. Donc, après cette dispensation de la loi, nous avons la dispensation de la grâce. Et donc, le témoignage à garder n'est plus la loi elle-même, bien qu'elle soit toujours la pensée de Dieu et qu'elle soit toujours aussi instructive pour nous et pour notre marche. Mais notre temps actuel est celui où le Fils de Dieu est venu sur la terre. C'est là la révélation de Dieu est venue par le Fils de Dieu. Hébreux 1, Dieu a parlé dans le Fils, en Fils. Le Fils éternel de Dieu qui a pris un corps d'homme, qui est un homme comme nous, à part le péché, qui avait une œuvre à accomplir, l'œuvre de la croix. C'est ce qui caractérise notre époque, aujourd'hui, la période de l'Église. Christ est venu et a accompli cette œuvre de la croix par laquelle nos péchés sont expiés, par laquelle le Seigneur a pleinement glorifié Dieu. Christ est mort pour nos péchés. Mais Christ a été ressuscité pour notre justification. Et il a été élevé dans la gloire. C'est ce qui caractérise notre époque. Christ est venu comme un homme, il est mort, et il est ressuscité, et il est dans la gloire. C'est là que nous le contemplons. Et de là, il nous a envoyé le Saint-Esprit, caractéristique de notre époque, la caractéristique de notre époque, le Saint-Esprit sur la terre qui habite dans le croyant et dans la maison de Dieu, dans l'assemblée. Et dernière caractéristique, c'est que le Seigneur Jésus va revenir nous chercher pour nous prendre auprès de lui. Et c'est ce que le cœur de tout croyant désire, et c'est ce que le cœur de l'épouse désire, comme nous l'avons exprimé dans notre cantique. C'est cela le témoignage que nous avons à garder. C'est tout cela, c'est Christ. Christ venu en chair, mort, ressuscité, élevé dans la gloire, d'où il a envoyé l'Esprit et il va revenir nous chercher. Et de cela, nous n'avons pas à avoir honte. Et encore une fois, s'il y a une exhortation, c'est parce que nous sommes susceptibles d'avoir honte du témoignage. Et comment ? Mais tout simplement en ne contemplant plus Christ, mais en détournant nos regards à droite ou à gauche autour de nous, sur le monde, qu'il soit le monde qui gît dans le méchant ou que ce soit le monde chrétien. Et on se laisse influencer par les façons de faire du monde ou du monde chrétien, soit individuellement, soit collectivement. N'aie donc pas honte du témoignage. L'apôtre n'avait pas d'honte. Et qu'est-ce qui caractérisait la vie de l'apôtre ? C'est Galates 2:20 nous dit une chose tellement extraordinaire. Je suis crucifié avec Christ. Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je suis crucifié avec Christ. Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Je n'oserais pas l'exprimer. Pourtant, c'est bien ce que nous avons à imiter. Comme l'apôtre peut le dire, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis de Christ. Et c'est bien cela, ne pas avoir honte du témoignage, c'est bien vivre ainsi. Comprendre que Christ est venu, et qu'il est mort sur la croix à notre place. Et nous nous identifions à lui. Nous acceptons, nous prenons sur nous cette œuvre où lui a été notre substitut. Il a pris notre place. Nous le croyons, nous nous identifions à cela. Et nous croyons que Dieu nous a, notre vieil homme a été crucifié avec Christ. Romains 6, sauf erreur. Notre vieil homme a été crucifié. Voilà l'appréciation de Dieu sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes dans la chair. Notre vieil homme a été crucifié. Et cela, il faut le saisir par la foi pour juger ensuite tout ce que la chair qui est encore en nous, la vieille nature qui est toujours là, est susceptible de produire. Nous avons à nous juger nous-mêmes à cet égard. Pour réaliser, comme l'apôtre, je suis crucifié avec Christ, on accepte cela, et on le vit par la foi, et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Oui, je n'oserais pas le dire, pourtant. C'est ce à quoi nous sommes appelés, c'est ce témoignage auquel nous sommes appelés à rendre, témoignage à rendre. S'il s'agissait dans notre verset de 2 Timothée de notre témoignage, nous ne pourrions qu'avoir honte. Mais il est l'apôtre détourne l'attention, notre attention de nous-mêmes pour porter notre attention sur Christ, n'est donc pas du témoignage de notre Seigneur. C'est de Christ que nous n'avons pas à avoir honte. Et donc, par la foi, en le contemplant, nous pouvons nous attacher à vivre ainsi comme l'apôtre le vivait. Voilà pour l'aspect individuel. Une partie du témoignage, de l'aspect individuel quant à ce témoignage. Il y a la croix aussi, la croix qui, toujours dans Galates, l'apôtre peut dire, à la fin, c'est dans le dernier chapitre, verset 14, qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier sinon à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. Est-ce que nous pouvons dire cela ? Est-ce que nous pouvons vraiment dire cela ? Là aussi, je baisse la tête. Est-ce que vraiment la croix, nous la vivons ainsi ? Est-ce que le monde m'est crucifié ? Est-ce que nous sommes crucifiés au monde ? Est-ce que le monde n'est plus rien pour nous ? Est-ce que nous ne sommes plus rien pour le monde ? Nous n'avons pas... Notre vieille nature a tout dans le monde. Notre nouvelle nature n'a rien dans le monde. Et nous avons à vivre de cette vie nouvelle qui nous a été donnée, par l'Esprit qui nous a été donné. Voilà ce témoignage que nous devons garder individuellement, chacun pour nous-mêmes. Et l'attente du Seigneur, son retour. Cette vérité que l'ennemi est arrivé à ôter des pensées des chrétiens pendant des siècles et des siècles. Par grâce nous a été recouvré il y a 2 siècles. Et qu'en est-il aujourd'hui ? Ça a été une révélation quand nos frères ont recouvré cette vérité que le Seigneur revenait pour nous prendre. Il vient. Et pourtant, la parole est claire à ce sujet. 1 Thessaloniciens 4, ou même, on l'a lu ce matin, Jean 14. C'est, on ne peut plus clair. Comment cela a-t-il pu être effacé de toutes les pensées pendant si longtemps ? Peut-être pas de toutes les pensées, non, mais au moins collectivement, on n'en a pas trace. Mais certainement, des chrétiens isolés ont saisit cela par la foi, très certainement. Mais nous aujourd'hui, si nous n'attendons pas le Seigneur, c'est qu'il ne remplit pas nos cœurs, tout simplement. Si nous attendons le Seigneur, nous sommes forcément détachés des choses de ce monde. Rien d'autre n'aura d'intérêt pour nos cœurs. Nous imaginons bien, nous l'avons peut-être vécu nous-mêmes, certains, ceux qui sont passés par là. Lorsqu'un fiancé ou une fiancée attend son fiancé qui était parti au loin et qui revient, c'est qui revient, et là, d'un moment à l'autre, il va arriver, son cœur est plein de lui. Elle va à la fenêtre, tirer le rideau, voir s'il n'arrive pas au bout du chemin, ou que sais-je. Elle ne sera distraite par rien d'autre. Rien d'autre ne va remplir son cœur. Elle pense à lui. Le fiancé ou la fiancée est le tout pour le cœur de l'autre. En est-il ainsi pour nous ? Et si nous attendons le Seigneur, vraiment nous seront toujours occupés de lui. Nos cœurs seront toujours là-haut. Et nous le contemplons aussi dans la parole. Et les choses de ce monde n'auront pas d'attrait pour nous. C'est cela, ne pas avoir honte du témoignage. C'est garder, ne pas avoir honte du témoignage, c'est garder individuellement tous ces aspects-là, tous les aspects de Christ et tout ce qu'il a fait pour nous, pour notre bénédiction. C'est s'en saisir par la foi et de le garder. Et collectivement. C'est la même chose. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur. Et cela est dit parce que, là aussi, sur ce plan-là, collectivement, nous risquons bien de manifester, d'avoir honte du témoignage et de nous laisser influencer par tout ce qui est du monde chrétien. Nous gardons ce témoignage collectivement de la mort du Seigneur venu en chair, qui a pris un corps, de la mort du Seigneur à sa table, à la scène. Dimanche après dimanche, nous nous souvenons, non sans être étreint dans nos cœurs, du prix que le Seigneur a payé pour nous racheter. Il s'est donné lui-même. Il a donné son corps. Il est donné pour nous. Et nous le faisons jusqu'à ce qu'il vienne. Là aussi, dans ce geste, sa venue n'est pas à proprement parler vue dans les signes qui sont sur la table, mais c'est l'apôtre qui nous dit que nous pouvons nous souvenir de lui tout le temps de son absence jusqu'à ce qu'il vienne, parce qu'à ce moment-là, bien sûr, nous n'aurons plus de souvenirs, plus besoin de souvenirs, nous l'aurons lui. Plus besoin de souvenirs. Ce souvenir qui nous parle de sa mort, et nous nous souviendrons quand nous le verrons avec les marques dans son côté, dans ses mains. Aussi, pour l'éternité, nous nous souviendrons qu'il est mort pour nous. Et donc ce souvenir est là jusqu'à ce qu'il vienne, et nous attendons ce retour. Et comme nous l'avons aussi chanté, son épouse, l'épouse dit « Viens, Seigneur Jésus ». Et c'est bien les tout derniers versets du Saint-Livre qui nous le disent. Apocalypse 22, verset 17. « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Est-ce que collectivement, ainsi, l'épouse peut vraiment dire « Viens » Est-ce que le collectif est toujours, bien sûr, on pourrait dire, c'est peut-être une très mauvaise expression, mais la somme des individuels, et que nous réalisons ensemble. Est-ce que l'épouse peut dire « Viens, Seigneur Jésus ». Et dans ce témoignage collectif, il y a un des côtés essentiels, celui de l'habitation de l'Esprit dans l'Église et dans le croyant. Et maintenant, nous considérons le côté collectif, donc le côté de l'habitation de l'Esprit dans l'Église. C'est l'Esprit qui nous conduit. Concernant l'Église, dans 1 Corinthiens 12, « Nous n'allons pas tout lire, juste le verset le plus pertinent, peut-être. Peut-être faut-il un peu plus, mais peut-être à partir du verset 4. Il y a diversité de dons de grâce, mais le même esprit, le même esprit. Il y a diversité de services et le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue de l'utilité, car à l'un est donnée par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même Esprit, et à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même Esprit, et à un autre des opérations de miracles, et à un autre des prophéties, et à un autre des discernements d'esprit, etc. Verset 11, mais le seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant chacun à chacun en particulier comme il lui plaît. Nous voyons là le fonctionnement des dons, pas le fonctionnement, mais plutôt la distribution des dons, opéré par l'Esprit. C'est lui qui le fait, ce n'est pas l'homme qui va dire à l'un, toi tu feras ceci, toi tu feras cela, comme cela, hélas, arrive maintenant dans beaucoup de... dans la chrétienté en général. C'est l'Esprit qui donne, ce n'est pas nous, selon sa sagesse. C'est lui qui dirige toutes choses. Seigneur pouvait dire dans en Jean 16, au verset 13, mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est par l'Esprit que nous connaissons ces choses. Dans 1 Corinthiens 2, verset 10, donc, par rapport à ce qui précède, ce que l'œil n'a pas vu, les mystères qu'il y avait, la sagesse de Dieu cachée. Verset 10, « Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, et même les choses profondes de Dieu. » Fin du verset 11, « Ainsi, personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. » L'homme ne peut pas entrer dans l'esprit, dans la pensée de Dieu. Il faut que ce soit l'esprit qui lui révèle. Ça, c'est capital. Si l'on laisse nos esprits humains s'égarer dans diverses spéculations sur la parole, nous errerons. C'est l'esprit qui nous ouvre les choses profondes de Dieu. C'est l'Esprit qui distribue des dons. Et nous avons à reconnaître les dons qu'il distribue. Et nous avons à reconnaître aussi ce que ces dons nous ont laissé, notamment quand il y a eu ce réveil il y a 2 siècles, un réveil suscité de l'Esprit, ce qui est indéniable. Ce ne peut pas être une œuvre humaine, c'est indéniable. C'est bien le réveil opéré par l'Esprit, qui a distribué des dons, qui nous ont laissé de précieux commentaires, de précieuses pensées, de précieux écrits. C'est l'Esprit qui nous les a donnés, qui a, certes, ce ne sont pas des livres inspirés, comme la parole, certainement, mais l'Esprit a opéré de façon telle que ces dons se sont laissés conduire et cela est manifeste lorsque nous lisons leurs écrits, se sont laissés conduire par l'esprit et ne se sont pas égarés dans les spéculations humaines. Même s'il peut y avoir des inexactitudes ici ou là, parce qu'encore une fois, nous sommes des hommes et il peut y avoir des choses qui viennent de l'homme. Mais de façon générale, c'est cela. Et donc ces choses, nous avons à les garder. Ça fait partie de cela, ne pas avoir honte du témoignage. C'est-à-dire prendre à cœur ce que l'Esprit nous a donné, l'Esprit qui habite dans la maison de Dieu, dans l'Assemblée, nous soumettre à lui, reconnaître ce que lui a donné et prendre ce que lui a donné par ses dons, nous en nourrir. Bien sûr, encore une fois, ça ne remplace pas la parole, mais tous ces écrits nous engagent à lire la parole. Tous ces écrits pointent vers la parole. C'est cela qui fait leur valeur. Et ces choses font aussi partie de ce témoignage collectif que nous n'avons pas à avoir honte. L'Esprit a été donné aussi, alors nous pouvons reprendre encore 1 Corinthiens 12, toujours, oui, voilà, au verset 13. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Si nous prenons encore un verset dans Jean 11, sauf erreur, oui. Jean 11, ce que le souverain sacrificateur de l'époque du Seigneur a prophétisé, à son insu, très certainement. Au Jean 11, verset 51, après avoir dit, pardon, verset 50, « Vous ne savez rien ni ne considérez qu'il nous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. Nous lirons encore concernant cet aspect-là, concernant ce corps qui sont rassemblés en un. Nous sommes un seul corps. Dans Éphésiens 1, au sujet du Seigneur, Dieu a, verset 22, pardon, la fin d'Éphésiens 1, Dieu a assujetti toute chose sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toute chose à l'Assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout. En tous. L'assemblée qui est son corps. Encore un verset dans 1 Corinthiens 10. Cette vérité que nous venons de lire dans quelques différents versets est exprimée le dimanche matin dans ces signes qui sont sur la table. Verset 17, 1 Corinthiens 10, 17, « Car nous qui sommes plusieurs sommes un seul pain, un seul corps. Car nous participons tous à un seul et même pain. Un seul pain, un seul corps. » C'est le résultat glorieux de l'œuvre de Christ à la croix. L'assemblée est vue sous plusieurs caractères. l'épouse, la maison, le corps, le troupeau. Et comme corps, l'expression d'Éphésiens 1 est remarquable. Hein. L'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous sommes absolument intimement identifiés à Christ, son corps, lui en est la tête. L'assemblée est la plénitude, le complément. Christ sans son assemblée, sans son épouse, ne serait pas complet. L'assemblée est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et c'est une vérité, et il y a un seul corps, il n'y en a pas 36. C'est une vérité capitale et qui entre dans ce témoignage de notre Seigneur dont nous n'avons pas à avoir honte. Comment pourrait-on en avoir honte ? Eh bien, en ne réalisant plus que nous sommes un seul corps, qu'il n'y a qu'un seul corps. Et en admettant la dispersion, parce que le corps est, s'il y a un seul corps, le corps est un, rassemblé en un, les enfants dispersés, il y a, le corps est un, uni. Et l'esprit habite dans l'assemblée et conduit toute chose pour nous conduire vers Christ et nous conduit à glorifier Christ. Et nous pouvons le faire qu'en réalisant cela. Et si l'apôtre dit à Timothée, n'aie pas honte du témoignage, c'est que déjà ça commençait à se disperser. Cette vérité du seul corps devait être déjà sérieusement entamée. Et aujourd'hui, que dire ? En regardant le monde chrétien, qui est constitué d'une multitude de, entre guillemets, corps indépendants, les uns des autres. Les uns tirent de là, les autres tirent de là, d'autres se laissent leur propre pensée prendre le dessus et s'organisent à leur façon. Est-ce que l'esprit nous conduit ? Est-ce que c'est l'esprit qui conduit comme ça ? Les uns à faire une chose, les autres à faire l'opposé, les autres à faire ce qu'ils veulent ? Certainement non. Et pourtant, c'est ce qui est à peu près ce que nous voyons de partout. Et de quoi devons-nous rendre témoignage ? À ce seul corps. C'est bien cela qui glorifie le Seigneur, ce seul corps qui est la plénitude de lui-même, conduit par un seul esprit. Et nous avons à y être très attachés. Nous sommes dans des temps périlleux où ces choses pourraient bien nous échapper. Où c'est chaud, où nous pourrions bien avoir honte du témoignage, en nous laissant influencer par différentes considérations, de sentiments personnels, familiaux, d'amitié quelconque, qui ferait que nous ne gardions plus ce principe de l'unité du corps, mais nous ferait exprimer la communion avec cette dispersion qui est au déshonneur du Seigneur. La dispersion de l'Église actuelle est une honte. Est une honte. Et tout au déshonneur du Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de nous cramponner à ces choses. N'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur. Et collectivement, ça passe par, encore une fois, c'est Christ que nous devons voir. Christ, son œuvre, et les résultats de son œuvre, pour sa gloire. Et c'est cela, tout cela que nous avons à saisir par la foi et à y être attachés et à le garder. Ça demande des combats. D'ailleurs, cet épître, si nous allons un peu plus loin, c'est « garde le bon dépôt, combat le bon combat », etc. C'est bien ce que l'apôtre va exprimer à Timothée. L'apôtre avait un certain âge déjà. Encore une fois, lui, il avait accompli fidèlement son service devant son Seigneur, approuvé de lui, et il n'avait pas honte de ce qu'il avait enseigné. Il savait qu'il avait cru. Mais il peut engager son jeune enfant dans la foi. Timothée, même s'il n'était pas si jeune que ça, était quand même nettement plus jeune que lui. Et ça s'adresse à tous nos jeunes ici. À garder ces choses précieusement pour la gloire de Christ, par rapport à lui, pas par rapport à quiconque, par rapport à lui. Et c'est sûr que cette communion à la table, c'est la table du Seigneur, pas un autre. Elle appartient à personne, au Seigneur seul. Il en a confié l'administration aux frères. Il est clair que nous avons que l'homme a même si c'est Christ qui bâtit son assemblée, nous voyons bien que l'homme a une responsabilité, il est confié à l'homme une responsabilité plutôt, pardon, et l'apôtre peut le dire dans 1 Corinthiens 3. Quand il dit qu'il a... nous sommes, verset 9, nous sommes collaborateurs de Dieu. Verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement et un autre édifie dessus. Mais que chacun considère comment il édifie. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. Et ensuite, on voit qu'on peut apporter de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, selon ce... Il y a des choses qui brûleront, qui disparaîtront, tout ce qui sera apporté par l'homme, tout ce qui sera été conduit par l'Esprit demeurera éternellement et sera des fruits pour la gloire de Dieu. Donc il y a une responsabilité qui est confiée à l'homme. Veillons à être fidèles dans ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Donc si nous avons une administration, quant à ces choses, soyons fidèles. Et notamment par rapport à la table du Seigneur, qui ne saurait être souillé par des communions qui ne conviennent pas. Mise en communion avec en recevant des croyants, peut-être de milieux indépendants, des croyants qui sont attachés à leur milieu et qui ne seraient là que, peut-être que pour un dimanche, mais occasionnellement, comme on dit. Mais ce serait une sévère entorse au principe même de cette unité du corps qui est un, et nous ne pouvons absolument pas reconnaître une dispersion indépendante, une dispersion où chacun fait ce et conduit selon ses propres pensées, non pas par l'esprit certainement, même si l'esprit peut opérer dans ces et qu'il y ait des croyants dans tous ces milieux, ça c'est évident, ce n'est pas là le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de ne pas avoir honte du témoignage. C'est-à-dire, on regarde à Christ, son œuvre, les résultats de son œuvre, nous avons à en être convaincus, imprégnés, et désirer le garder fidèlement. Que le Seigneur nous accorde de pouvoir le faire. Nous sentons notre immense faiblesse et peut-être coupable, certainement coupable, mais que ceux qui nous suivent, comme Timothée, qui était plus jeune, puissent prendre à cœur ces choses et ne pas avoir honte de ces témoignages, même s'il est, j'allais dire, excusez l'expression, même s'il est ridiculement petit par rapport à l'immensité de la chrétienté. Il n'empêche que Dieu regarde à ce qui est selon lui, et il approuve ce qui est selon lui, et sait bénir ce qui est selon lui. Puissions-nous nous attacher au Seigneur de tout notre cœur, ayant fixant les yeux sur lui et désirant le et l'attendant aussi, parce que l'attente du Seigneur, cette attente fervente, cette attente vivante, ne peut que nous donner de nous attacher à lui et à tout ce qu'il concerne. C'est notre souhait.